Europe 1, en balade avec Jean-Louis Etienne, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est un explorateur qui nous emmène en balade aujourd'hui dans Paris. Jean-Louis Etienne en personne, le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire après 63 jours de marche. Il va donc falloir le suivre. Jean-Louis Etienne nous a donné rendez-vous au sous-sol du BHV, au rayon bricolage, et pour cause, il vient de publier un livre intitulé « Oser l'autonomie » chez Rustica. Et l'autonomie, ça commence par savoir faire les choses soi-même.
Europe 1, 11h30, en balade avec Jean-Louis Etienne, Frédéric Taddeï.
Nous voilà au bazar de l'Hôtel de Ville, fondé en 1856 par Xavier Ruel. J'ai pris les escalators vers le sous-sol, le rayon bricolage, où se trouve Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, ça va.
C'est un petit paradis pour vous ici, non ?
Une Mecque.
carrément.
C'est carrément une Mecque, c'est-à-dire que c'est tout l'outillage, c'est-à-dire tout le prolongement de ce que l'on fait avec ses 10 doigts.
Oui. Quand on veut, comme vous, être autonome, vous dites dans votre livre Oser l'autonomie qu'il faut faire des trousses à outils pour voir venir. C'est l'endroit idéal.
Oui, la trousse à outils, c'est en fait une accumulation de compétences, en fait, quoi. Ici, on est au BHV, on est dans l'outillage, et donc. Très tôt, j'ai cherché l'autonomie. Je n'ai jamais pensé acheter les choses.
Vous dites, du fait de vos origines très modestes, vos parents avaient très peu d'argent.
Oui, très peu. On avait de l'amour, mais rien d'autre.
Voilà, c'est ça, pas d'eau courante.
Et en fait, non, il n'y avait pas d'eau courante. On avait l'eau au puits. Moi, quand je raconte ça à mes enfants, ils me prennent pour un homme préhistorique, quoi. C'est vrai qu'on n'avait pas l'eau. Mais par contre, j'avais toujours le sens de ce que je pouvais faire de mes 10 doigts, c'est-à-dire... Dès que j'ai eu un vélo, je m'en occupais, je le peindre, etc. Après, ça a été la mobylette, je démontais les moteurs, je refaisais tout ce qu'il fallait. Donc, même après, jusqu'à 40 ans, je faisais la mécanique sur ma voiture, des voitures d'occasion que j'achetais. Donc, j'ai toujours eu ce goût. Et en fait, je n'ai jamais pensé à acheter les choses. J'achetais d'occasion et je retapais tout.
Tout de même, il faut acheter les outils, il faut acheter les matériaux.
Oui, alors, moi, les outils, ça a commencé très tôt. Moi, j'allais à l'école primaire à Castres et le samedi, il y avait les étalages d'outillage parce que c'était la campagne. Donc, les outils étaient proposés aux gens sur des stands et je m'arrêtais là. Et j'ai le souvenir de mon premier outillage que j'ai acheté. C'est une boîte de ciseaux à bois, mais des vrais ciseaux à bois magnifiques.
Vous les avez conservés ?
Ah ben oui. La boîte déjà était belle et puis ses manches faites en bois. Enfin, c'est... Voilà, donc j'ai toujours eu ce goût pour le bricolage, mais surtout le goût pour les outillages. Regardez ça, oui. Qui est devant nous, là, vous voyez. À partir de ça, on peut faire un plateau. Et
c'est quoi ça, il faut le dire pour nos auditeurs.
Ah ben oui, c'est vrai.
et moi, n'ayant pas vos facultés.
Ce sont des roulettes, en fait, tout simplement. Oui. Vous voyez, vous fixez ça sous un plateau, vous en mettez quatre, et vous avez une plateforme qui se déplace. Donc, si vous voulez chez vous faire un meuble facilement déplaçable, sur un plateau comme ça, quatre roulettes, vous mettez ça dessus, et puis vous pouvez le déplacer. Moi, j'adore, chaque truc m'inspire quelque chose, vous voyez, c'est pour ça.
Mais en même temps, est-ce qu'il y a un peu de fétichisme là-dedans ?
Ah non, pas du tout.
Non, rien ?
Pas du tout. Non, regardez ça, moi, je rêvais de faire des boîtes en bois. Ouais. C'est compliqué de faire une boîte en bois. Oui, qu'elle soit solide, qu'elle ne se plie pas. Regardez, vous voyez, c'est un véritable usinage. Et en fait, des choses simples comme une boîte en bois qui est devant nous, si vous regardez comment c'est fait, c'est super bien fait. Et en plus... Elle ne bouge pas. Moi qui en ai construit, je peux vous dire qu'elles n'étaient pas solides, celles que je faisais. Quand je vois ça, donc c'est un bel outillage. Voilà, ce sont des petites choses qui m'émeuvent.
Oui. Vous êtes un entrepreneur de l'extrême, vous. C'est, ouais. C'est une entreprise quand on part au Pôle
Mais
Nord.
Vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est exactement le mot qui convient. Parce que quand on me voit, on me dit « Vous arrivez d'où et vous repartez quand ?» Je dis « Mais attendez ». Une expédition, c'est une entreprise. Moi, je suis un chef d'expédition d'aventure lointaine, si vous voulez. Parce qu'il y a d'abord l'idée. Ensuite, il faut le valider, voir si c'est un bon projet. Ensuite, réunir des personnes, réunir des moyens, un calendrier, un objectif. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça prend des fois 2-3 ans.
Facile.
Donc, c'est facile, des fois plus. Donc, c'est un métier d'entrepreneur. C'est un métier où être très structuré, en fait. Et l'expédition que l'on voit et que l'on ramène avec des images, c'est vraiment la partie émergée, quoi, hein, la cerise sur le gâteau.
Vous avez été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, à pied. Vous avez dû faire à peu près 1000 km, j'imagine. Hein.
C'est difficile à dire. La distance est 800, mais quand on va au pôle Nord en partant du Canada, on marche contre la dérive de la banquise. La banquise, c'est cette couche de glace qui recouvre l'océan du pôle Nord. Ça fait 1,50 m, ça faisait 2 mètres d'épaisseur quand j'étais en 86. Aujourd'hui, ça fait 1,20 m. Vous voyez, ça fond à l'épaisseur. Et il y a un courant qui ramène cette glace le nord, au nord du Canada. Ça s'écrase comme ça. Donc, je marchais un peu sur un tapis roulant ou flottant plutôt de glace qui se met éloigné du pôle. Donc, j'ai peut-être fait, je pense, 1200 km. Oui.
Et vous avez voyagé léger, j'imagine.
Avec le moins possible. Avec le moins possible. J'avais un traîneau qui pesait 3 kg. J'ai bénéficié, si vous voulez, de l'arrivée du carbone, de l'arrivée du Kevlar, fait à la main, encore une fois, avec un copain à la maison.
Mais il faut tout faire avant, parce qu'au pôle Nord, vous ne pouvez plus rien fabriquer. Il n'y a rien.
Non, le pôle Nord, il n'y a rien. Si vous voulez, vous arrivez au pôle Nord, c'est la navigation qui vous dit que vous êtes au pôle Nord. C'est rendez-vous au milieu d'un océan gelé, vous voyez. Donc, il n'y a rien.
À la différence de l'Antarctique, qui, lui, est un véritable continent.
Tout à fait.
Il y a de la terre en dessous.
La terre en dessous est un continent de glace, et ça ne bouge pas beaucoup. Et donc, vous avez au pôle Sud géographique même, une base américaine qui est là. Effectivement, c'est l'axe de rotation de la Terre. Donc, le premier qui est arrivé, c'était Amundsen. Il a planté le drapeau norvégien. Quand Scott est arrivé un mois après, il a vu qu'il s'était fait doubler. Il y avait une trace. Au pôle Nord, qu'on vient d'évoquer, cette banquise qui se déplace en permanence. Moi, j'ai planté le drapeau français en arrivant pour faire la photo. Quelques heures après, j'y étais plus parce que ça dérive sans arrêt. Et donc, la querelle, c'est qui est le premier qui a mis le pied au pôle Nord.
Et on ne le sait pas.
C'est difficile à dire. Moi, je sais que j'ai eu la chance de bénéficier des trucs modernes. J'avais une balise Argos, donc on me suivait. Et à un moment donné, par la navigation, j'ai su que j'y étais. Alors, je me disais, quand on arrive au pôle Nord, un peu comme la Terre qui tourne sur un clou, est-ce qu'on sent quelque chose, vous voyez ? Ben, rien.
Alors, en revanche, il y a une sensation qui doit être très amusante que vous avez dû avoir. Une fois que vous êtes au pôle Nord, quelle que soit la direction que vous preniez ensuite...
On part au sud.
Vous allez vers le sud.
Ah oui, ah oui, oui.
C'est le seul endroit comme ça.
Oui, et puis, autre magie du pôle Nord, quand vous y êtes, vous pouvez faire le tour du monde en 2 secondes.
Oui.
C'est-à-dire que vous chevauchez l'ensemble des méridiens, des 360, si vous voulez. Vous revenez au point de départ en 2 secondes, vous avez fait le tour du monde.
Ça doit être merveilleux.
Ce qui était merveilleux, c'est que c'était un soulagement formidable. C'était une expédition que j'avais essayée en
85. On est content d'être arrivé, mais après, il faut repartir.
Non, j'avais un petit avion sursis qui est venu me chercher. Mais j'étais tout seul et j'avais besoin de parler. Ça faisait 63 jours que je me battais avec le traîneau, avec la glace et tout. Et je parlais. Je parlais au traîneau, je parlais au réchaud, je parlais à tout ce matériel que j'avais choyé. Il y avait un petit côté bricoleur dans l'entretien, parce que le réchaud, c'est le Saint-Sacrement, quoi. Hein.
Ah bah oui.
Si ça ne marche pas, on est foutu, quoi. Donc toutes ces choses-là, on prend soin. Et je retrouve ça, cet attachement aux navigateurs en solitaire qui font le tour du monde, le Vendée Globe. Ils ont une telle fusion avec tout leur matériel. Et le dernier vainqueur me disait, quand je suis arrivé... Ils sont montés à bord pour me demander alors comment ça s'est passé, cette espèce de viol dans son intimité. Moi, il n'y avait personne au pôle Nord, j'étais tranquille. Et donc, je remerciais le matériel. Il y avait une fusion qui s'était faite comme ça avec les éléments.
Europe 1. Eh bien, on va partir en balade, Jean-Louis Etienne. On va d'ailleurs voir votre ami Titouan Lamazou qui a fait le Vendée Globe.
Titouan, j'étais sur Penduixis avec lui pendant un an avec Eric Tabarly.
Avec Eric Tabarly, ben, il nous en parlera. Ben, allons-y.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Louis Etienne sur Europe 1.
C'est dans le 4e arrondissement qu'on retrouve Frédéric Taddeï et l'explorateur Jean-Louis Etienne. Et sur leur route, ils vont en apprendre des choses.
Nous sommes ressortis du BHV Marais avec Jean-Louis Etienne. Et l'on se dirige vers le siège des Compagnons du Devoir. Devant nous, il y a l'hôtel de ville, l'arrière de l'hôtel de ville qui est ici. Il y a beaucoup de petits garçons habillés avec des gilets jaunes et qui... Alors, comment ça s'appelle
Comment ça s'appelle, ça ?
Un overboard.
Overboard.
C'est ce qui permet, on se tient debout dessus et on avance avec 2 roulettes.
Il y a des piles électriques dedans ?
C'est à batterie.
À batterie, alors, d'accord.
C'est de la batterie. Toujours curieux, vous, hein ? Ça vous amuserait de rouler là-dessus ?
Ouais, il faut faire gaffe, quoi. Ça m'amuserait beaucoup, ouais.
Vous n'avez pas beaucoup fait gaffe dans votre vie, Jean-Louis Etienne. Vous étiez médecin, vous avez quitté l'internat de chirurgie pour gravir les montagnes.
Oui,
Le premier, c'était le Fitzroy, non ?
Oui, c'est vrai, la Patagonie. En fait, ça, c'est profond, c'est ancien, ça donne envie de faire des expéditions.
Oui, vous avez quitté votre poste d'assistant à l'université pour faire la course en bateau autour du monde avec Tabarly. Après le pôle Nord, vous avez définitivement abandonné la médecine pour vous consacrer aux expéditions polaires.
Oui.
Vous suiviez quoi exactement ?
Un désir de faire des expéditions.
C'était toujours.
Mais oui.
Partir.
Mais partir avec un programme, avec une construction, avec une idée. Parce que l'errance, je l'ai faite une fois et on s'emmerde.
Ah bon ? Où est-ce que vous avez erré ?
En Californie.
Ça devait être à l'époque des hippies.
Oui. c'était ça. J'étais à San Francisco, classique et tout. J'ai fait tout le parcours. Mais ces expéditions, c'est très ancien. Moi, je suis né à la campagne. Je rêvais d'être alpiniste, en fait, dans le Tarn, originaire du Tarn, qui était très agricole.
Oui.
On est loin de toutes les montagnes. Et je rêvais de ça. Et donc, quand j'étais interne en chirurgie, je me suis dit, c'est peut-être le moment de proposer mes compétences de médecin pour faire des expéditions. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors,
comme vous aviez eu une enfance pauvre, vous n'aviez pas peur de manquer parce que la médecine, c'était d'ascension sociale extraordinaire.
Oui.
En renonçant au fur et à mesure à toutes les possibilités de...
Non, mais c'est ce que j'appelle se faire des outils.
Ah, c'est ça.
Ils sont dans la poche, quoi. Hein. Donc, je peux faire autre chose. Une part de mon insouciance, ça a été que j'ai toujours su qu'avec mes 10 doigts, je pouvais faire une cabane, un jardin et des poules.
C'est ça l'autonomie dont vous parlez
c'est
dans votre livre.
C'est ça l'autonomie.
Ouais.
Et donc, ça, c'est la base. C'est la base à partir de quoi on peut toujours se replier, se mettre à l'abri et se nourrir. C'est quelque chose qui m'a toujours rassuré.
Nous sommes sur la place Saint-Gervais. Il y a devant nous l'église Saint-Gervais, d'ailleurs, où les Couperins, autrefois, étaient les maîtres de chapelle. François Couperin était là.
Alors, vous voyez, depuis que Notre-Dame a brûlé, chaque fois qu'on se retrouve dans une église comme ça, on se rend compte combien on a d'églises. C'est une sorte de cathédrale, presque, ce truc-là. C'est majestueux. Et le nombre de bâtiments comme ça, ça veut dire qu'il y a des compagnons, il y a des artisans, il y a du monde qui a été employé pour toutes ces constructions.
Les compagnons existaient déjà du temps des cathédrales. Hein.
Oui, ah ben oui. Compagnons, ça a été un rêve.
On arrive devant les compagnons du devoir, cette très jolie façade bleue, qu'une maison qui semble sortie du Moyen-Âge d'ailleurs.
Compagnons, c'est quelque chose dans lequel j'y voyais beaucoup de noblesse. La noblesse du travail manuel, pour moi.
Les compagnons, c'était quoi ? C'était au fond
des artisans. Artisans qui travaillaient tout, le bois, la pierre, c'était des bâtisseurs. Et donc, ils se déplaçaient d'une région à l'autre, les compagnons de devoir, ils faisaient le tour de France.
Pour acquérir des savoirs.
Pour l'apprentissage, oui. Et j'aimais bien cette idée de confrérie, de compagnon. Et enfin, après le certificat d'études, moi, je voulais faire menuisier. C'est pour ça que je pensais à compagnon.
Qu'est-ce qui vous attirait dans le bois ?
C'est qu'on... On arrivait à travailler avec des outils simples. Une scie, marteau, ciseaux à bois. Et au collège technique, il n'y avait plus de place en section menuiserie. Donc on m'a mis à juste sur métaux, ce qui était moins rigolo pour moi.
Mais ce qui a été votre premier diplôme ?
Je m'y suis déployé.
Vous avez eu votre CAP d'ajusteur ?
Oui, de tourneur-fraiseur, on faisait ça. C'est marrant parce que je regarde ça. On rentrait à 14 ans au collège technique et on avait 40 heures par semaine. On avait 16 heures d'atelier, du dessin industriel, on avait de la technologie. Et donc, on était prêts pour travailler, quoi, les 40 heures par semaine.
Et vous étiez prêts, vous avez fait médecine après.
Oui, parce qu'en fait, et là j'insiste, c'est le travail manuel, la formation professionnelle des jeunes. Je trouve ça, pour moi, ça a été une reprise de confiance, une reprise d'intérêt pour la scolarité.
Vous étiez mauvais à l'école ?
C'est pas que j'étais mauvais, j'y étais pas.
Vous n'étiez pas à votre place, quoi.
Non. J'y étais pas. Et le nombre d'élèves qui, en troisième, n'ont pas des bonnes notes, sont déjà entrés dans la spirale des mauvaises notes. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont bons à rien. On leur a dit plusieurs fois déjà. Et puis, ils n'ont plus l'énergie, quoi. Et donc, la formation professionnelle, c'est quelque chose qui vous met, j'appelle ça la pelote de la vie, quoi, le bout de la pelote. Trouver un truc sur lequel vous allez tirer et qui va... qui va marcher, quoi, vous voyez.
Et ça, ça peut être plombier, ça peut être ajusteur, tout, ça tout, peut être menuisier, tout, ça tout, peut être jardinier.
Absolument tout. Et on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui ont suivi un parcours universitaire, qui ont fait une carrière, un début de carrière, qui se font chier et qui recherchent quelque chose où on est près de la vraie vie, en fait. Hein, quand vous pétrissez le pain, quand vous sciez des planches, quand vous faites des meubles, quand vous faites des pierres, on est dans la vraie vie. Et aujourd'hui, on manque tellement de travail manuel. On en manque tellement, quoi. Ça, c'est une voie royale.
C'est pour ça que vous m'épatez encore plus à l'idée que vous êtes arrivé à devenir médecin après ça. Vous auriez pu devenir chirurgien et vous avez tout laissé tomber pour aller gravir des montagnes. Je me dis, il fallait être courageux quand même. Envie.
J'ai un souvenir aujourd'hui. Un jour, j'étais tous les matins à l'hôpital en troisième année de médecine. Et un jour arrive une urgence de la main. Et j'étais là tous les matins. Et le chef de clinique cherche l'interne. Il n'était pas là. Et il dit à la chef du bloc, habillez Étienne. Putain, habillez Étienne. En chirurgie, on vous habille. Hein. Vous lavez les mains. Vous ne touchez pas les vêtements. On vous habille. Habillez Étienne. Et là, je mets mes deux mains dans le geste chirurgical. Je me suis dit, mais ça, c'est ma vie. Et donc, je me suis engagé profondément là-dedans avec beaucoup d'intérêt. Et je pensais que les expéditions seraient une parenthèse. Et en fait, ça m'a plu et j'ai continué.
Et vous avez laissé tomber la chirurgie.
Oui, j'ai laissé tomber la chirurgie, mais les 12 années que j'ai fait en tant que médecin, je gagnais ma vie en faisant de la médecine générale. Donc, je n'avais pas abandonné la médecine. J'étais généraliste en remplacement. Je n'ai jamais eu mon cabinet. Je faisais remplacement.
Et c'est en tant que médecin que Tabarly vous a appelé,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà.
Ben, on va rentrer chez les compagnons du devoir. Vous ne l'avez pas fait quand vous aviez 15 ans. On va le faire maintenant.
Oui, ben oui, oui, ça va. C'est beaucoup d'émotions.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Louis Etienne sur Europe 1.
C'est dans la suite de la balade de Frédéric Taddeï et de Jean-Louis Etienne qu'on apprend que l'explorateur a une collection un petit peu spéciale.
Nous voilà à l'intérieur de la maison des Compagnons du Devoir de Paris, 1 place Saint-Gervais, dans le 4e arrondissement. Et Jean-Louis Etienne est déjà en conversation avec Kenza Fontani.
J'ai une petite collection d'escaliers en bois.
C'est vrai,
De compagnons.
Oh, très bien, chanceux.
Ah oui.
Ce sont des travaux de réception que vous avez ou c'est d'autres réalisations?
Non, c'est des travaux d'élèves.
D'accord, ok, très bien.
Vous appelez ça de réception?
Oui, le travail de réception, en fait, c'est ce qu'on a appelé le chef-d'œuvre, qui est le nom exact, c'est plutôt un travail de réception. C'est le travail qu'un aspirant va réaliser afin d'être reçu compagnon.
Et une fois qu'il est reçu compagnon, il a donné son chef-d'œuvre et en plus, il prend son nom. Ardéchois, cœur fidèle, Avignonnais, la vertu, Bayonnais, le flambeau du trait, Bourguignon, la fidélité, Nantais, prêt à bien faire, Vendôme, la clé des cœurs.
Vous voulez dire que j'ai deux escaliers à la maison de compagnons, ils ont un nom peut-être?
Non, vous pourriez vous appeler Tarnais, qui aime les escaliers. Il continue de prendre des noms comme ceux que je viens de citer?
Oui, en fait, ça va dépendre du métier, mais en général, quand vous êtes reçu compagnon, une vertu est associée à votre nom. Alors, c'est en général soit une vertu qui vous caractérise, soit ça va être une vertu à travailler. Ça va dépendre des métiers. Chez les maçons, ce sera plutôt quelque chose qui est à travailler. Dans d'autres corps de métier, c'est plutôt un élément qui vous caractérise, mais qui est toujours à cultiver, bien sûr.
Et aujourd'hui, il y a des filles, hein?
Bien sûr, il y a des filles, oui, même dans les métiers du bâtiment, on n'y pense pas toujours, mais il y a des femmes charpentiers, il y a des femmes couvreurs, il y a des femmes.
Et on dit compagnonne ?
On dit un compagnon, c'est un nom propre qui est resté. Ouais.
Alors pour devenir compagnon, comment ça se passe ? Il y a un concours, on s'inscrit ? Enfin, c'est pas pour moi, c'est fini. Mais comment est-ce qu'on devient compagnon ? Puis j'avais été fasciné par cette notion du Tour de France des compagnons. Ça existe toujours ?
Oui, le Tour de France existe toujours. En fait, la formation chez les compagnons repose sur 3 piliers. Donc, c'est l'apprentissage d'un métier en entreprise. Il y a un principe fort qui est que le métier s'apprend en situation professionnelle réelle. Donc, toutes les formations se font en alternance. Le deuxième pilier, c'est le voyage. Donc, c'est ce fameux Tour de France qui va durer 5 ans en moyenne et qui a pour but de se perfectionner. En fait, en voyageant à travers la France, et aujourd'hui, il y a même une étape internationale qui se fait pendant 1 an. Et le troisième pilier de la formation, ça va être la vie en communauté. C'est-à-dire qu'au cours de leur formation, les jeunes, les apprenants, vont vivre au sein d'une maison de compagnons avec plein d'autres corps de métier, avec des âges qui vont aller à peu près de 15 à un petit peu plus de 25 ans. Et là, on est vraiment sur la notion de partage, de vivre ensemble, de transmission, d'entraide. Le soir, les repas se prennent collectivement et c'est l'occasion d'échanger avec ses camarades sur demander de l'aide, sur son travail, échanger des idées.
Mais vous ne nous avez pas dit qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir devenir aspirant compagnon ?
En fait, c'est pas très compliqué. Il faut être prêt à apprendre son métier dans une entreprise, prêt à vivre en communauté, être prêt à voyager.
Ben voilà un qui passe. Il va à la salle à manger.
Il faut savoir un peu se servir de ses 10 doigts, j'imagine. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas un test d'entrée. On vous demande pas
non,
de tailler une pierre, de scier une planche en bois.
Non, c'est vraiment les.
Ça vous aurait plu ça.
Ce sont vraiment les trois questions D'accord. que je viens d'évoquer. Et ensuite, avant de partir sur le Tour de France, il y a en général 1 à 3 années où vous allez apprendre les bases du métier. Vu que le Tour de France a pour but de se perfectionner, il faut déjà avoir les bases du métier. Ouais. Mais sinon, non, il n'y a pas de test manuel.
La devise, l'entrée. C'est toujours la même, servir sans s'asservir ni se servir.
Absolument, c'est la devise des compagnons du devoir.
Magnifique.
Aujourd'hui, on a, avec l'incendie de Notre-Dame, on s'est remis à parler de tous ces métiers. Hein. Vous avez dû le remarquer ici.
Oui.
Vous avez eu des visites plus nombreuses.
Absolument. Ben, on a eu pas mal de visites de médias qui, tout d'un coup, veulent découvrir qu'est-ce que le métier de charpentier, qu'est-ce que le métier de couvreur, qu'est-ce que le métier de tailleur de pierre. Et même si c'est malheureusement lié à un événement assez triste avec la destruction du toit de la cathédrale, c'est bien parce que c'est important en fait de faire connaître ces métiers, de les faire connaître aux jeunes, parce qu'on remarque aujourd'hui que souvent c'est des métiers qui sont méconnus par les jeunes, donc c'est des métiers vers lesquels ils ne vont pas s'orienter, alors qu'il y a des perspectives d'embauche qui sont énormes, c'est des métiers très intéressants, très épanouissants.
Oui.
Et donc c'est bien que ces métiers puissent être en lumière et valorisés.
Les matériaux du compagnon, c'est le bois, la pierre ?
Le métal, on appelle aussi, il y a tout ce que l'on appelle nous les métiers des matériaux souples, ça va être le cuir, le textile notamment. On a aussi les métiers de bouche, on a des métiers comme boulanger, charcutier, fromager.
Et alors, est-ce que les matériaux modernes aujourd'hui, comme le carbone, le kevlar, tout ça, font partie de la trousse du compagnon ?
Un jeune qui se forme chez les compagnons, parce que, on le disait, sa formation est assez longue et très variée à travers le Tour de France, il va apprendre à maîtriser l'ensemble des techniques, des plus traditionnelles aux plus contemporaines, aux plus modernes.
Ouais.
Donc en fonction des métiers, oui, vous pouvez retrouver un ensemble de matériaux très, très variés.
Si c'était à refaire, vous pourriez refaire tout ça, hein, Jean-Louis Etienne.
Oui, avant la chirurgie, je serais venu m'inscrire comme compagnon et ça m'aurait bien plu. Tout ce que vous avez dit là, le travail manuel, le voyage, la vie en groupe, comme ça, en communauté, il y avait tout pour me plaire.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puisque c'est le mois de mai, qu'il fait beau et que nous sommes à Paris, on va écouter Charles Aznavour.
J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime le vent qui m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a ramené, comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai. La Seine qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener, contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris au mois de mai.
C'était Charles Aznavour qui chantait « J'aime Paris au mois de mai ».
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Louis Etienne sur Europe 1.
Frédéric Taddeï et Jean-Louis Etienne se dirigent maintenant vers le 5e arrondissement, dans un des plus grands, mais aussi des plus vieux établissements.
Nous sommes maintenant dans une voiture qui nous emmène au Muséum d'Histoire Naturelle avec Jean-Louis Etienne. J'ai été épaté, Jean-Louis Etienne, vous êtes monté, vous avez immédiatement mis votre ceinture de sécurité.
D'instinct.
Quand bien même vous êtes à l'arrière, pour un explorateur, vous êtes bien prudent.
Ce sont mes souvenirs d'interne en chirurgie. J'ai tellement vu de fracas qu'en fait, c'est un réflexe. Et effectivement, j'ai bien suivi l'évolution des accidents, du niveau d'accidentologie en fonction de la ceinture ou pas de ceinture.
Ouais.
Ah oui. Mais vous savez, un explorateur, pour durer, il faut être prudent.
Oui, j'imagine, en fait. Dans votre livre « Oser l'autonomie », vous parlez des entraînements que vous avez subis avant de partir au pôle Nord pour contrôler notre système nerveux autonome.
Ah, autonome, oui.
Et c'est vrai que si on veut être autonome, il vaut mieux contrôler son système nerveux autonome.
Autonome, oui.
Notamment parce que quand on est exposé au froid, le corps peut conserver sa chaleur.
Hein, ben
c'est
oui.
L'homéostatie.
Vous savez, en médecine, on apprend le système nerveux volontaire, moteur, celui qui fait que tout d'un coup, on fait le geste. Et le système nerveux autonome, qu'on appelle aussi neuro-végétatif. Comme si on n'avait pas à s'en occuper. Et, vous voyez, depuis tout à l'heure, notre cœur bat, enfin, la tension se maintient, la glycémie après le sucre du repas est régulée. Vous voyez ce que je veux dire?
Et tout se fait sans qu'on ait besoin de participer. En tout cas, on n'a pas l'impression d'y participer.
On a quand même la possibilité d'intervenir. Les meilleurs pour ça sont les yogis. Les yogis ont une capacité à ralentir le rythme cardiaque, par exemple, à ralentir des motricités émotionnelles. Et moi, j'ai travaillé sur la vascularisation de l'extrémité des doigts. J'ai fait ça à McGill, cette université à Montréal. Et donc, par la concentration, vous avez une image dans laquelle vous mettez en tête celle que vous voulez. Vous imaginez effectivement des flux de sang, parce que le sang est chaud, arrive à la périphérie. Donc, j'avais fait ça, j'avais arrivé à maîtriser ça. Et après une semaine d'essai, on m'a mis dans un congélateur, le congélateur de l'hôpital universitaire. Donc, j'avais des capteurs de température au bout des doigts. Et le professeur était au chaud à l'extérieur. Donc la température des doigts, il n'y avait pas de gants, bien sûr, commence à baisser. Et tout d'un coup, il me dit, reprenez le contrôle. Effectivement, en réfléchissant, de nouveau, en me repenchant sur cette motricité vasculaire, j'ai réussi à stopper la descente en température et faire remonter.
Mais on peut le faire pour tout le corps. J'ai vu des expériences de gens qui couraient tout nus par des températures extrêmes.
Oui. Alors, quand on court encore, c'est pas un problème parce que le corps, tout le monde sait que quand on court, on a chaud. Le corps, il a un rendement aussi mauvais que le moteur à explosion de la voiture dans laquelle nous sommes. C'est pas pour vexer le chauffeur, mais c'est tout pareil. C'est-à-dire que 75% de l'énergie mise en jeu dans l'explosion du moteur, là, dans les pistons, 75% c'est de la chaleur. Seulement 25% est transformé en énergie mécanique qui fait qu'on avance. Et le corps humain, c'est pareil. Donc, quand on court, on n'a jamais froid. Et on tire un traîneau quand il fait moins 45, tant qu'on fait l'effort, on n'a pas froid. Le problème se corse quand on s'arrête, effectivement, que cette machine thermique de l'effort s'arrête, et là, le froid vous tombe dessus.
Vous auriez été capable, par exemple, de vous coucher nu dans la neige au pôle Nord et de reprendre le contrôle?
Non, je veux bien tenter l'expérience si vous voulez, mais j'étais très concentré sur mon voyage et j'essayais au contraire de garder toutes les calories. Et le corps, on en revient à l'autonomie du corps. À la fin, après 63 jours en température toujours négative, hein, la température centrale de mon corps était de 35,5. Vous voyez, 1,5 degré en dessous de nous qui avons 37, là on va bien, là on a 37. Ça veut dire que le corps, il a cette intelligence, au lieu de demander des calories pour lutter, il a baissé le thermostat à 35,5. C'est une position d'économie, vous voyez. Donc, le corps autonome marche très bien aussi.
Et le contraire de l'autonomie, c'est l'addiction, c'est la dépendance, c'est le tabagisme, c'est l'alcoolisme, c'est la toxicomanie.
C'est une forme de perte d'autonomie.
L'addiction au sucre qui envahit toute la planète.
Mais l'addiction, par définition, c'est une perte d'autonomie dans le sujet, quoi. Que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit la drogue. Moi, j'appelle ça pour essayer d'imager, d'aider les personnes. Vous avez un squat en vous, là. il y a un squat qui prend tout, qui a pris le contrôle, qui est en train de vous bouffer. Quoi. Foutez-le dehors. Je sais pas, il faut essayer parce que c'est très compliqué, les addictions. Moi, j'ai travaillé avec le père Jaouen. On amenait des jeunes en difficulté sociale qui étaient aussi toxicomanes. On voit comme...
Vous les emmenez en mer.
Hein, on les amenait en mer pour s'éloigner des fournisseurs. Et l'alcoolisme, on voit, c'est terrible. C'est terrible. Donc, on voit cette perte totale d'autonomie, de jugement. Donc, on, voilà. Et donc,
mais pourquoi est-ce que vous prenez l'autonomie dans ce livre, Jean-Louis Etienne, Oser l'autonomie? C'est dans le cas où il y a une catastrophe, où vous voulez qu'on devienne survivaliste?
Il y a de l'élégance dans l'autonomie. Vous voyez, c'est de ne pas toujours avoir à demander quelque chose aux autres, de se poser la question de savoir est-ce que je peux le faire, comment est-ce que je peux y arriver.
Tout seul, par moi-même.
Pas forcément tout seul, mais de chercher les moyens de le faire. Pour moi, c'est une forme d'élégance, l'autonomie.
Mais on pourrait dire que le comble de l'autonomie, c'est être seul, c'est n'aimer personne, c'est ne pas avoir de famille, ne tenir à rien, ni à personne. Ça, c'est l'autonomie.
Non, c'est un abandon, ça.
Vous trouvez ?
Oui, l'autonomie, elle est matérielle. On l'a évoqué, de se débrouiller tout seul avec ses 10 doigts, faire une cabane, des poules, etc. J'ai déjà évoqué. Elle est aussi émotionnelle. Je m'explique. Tous les matins, j'écoute la radio. Comme tout le monde, prendre les nouvelles. Les titres me suffisent aujourd'hui. L'information nous met tout le temps, c'est le principe même de l'information, dans une situation d'addiction. Hein, on y va, tac, on met le poste, écoutez. Et en même temps, dans une situation d'impuissance. Parce que les malheurs du monde qui nous arrivent, on n'a pas la possibilité d'agir. Et donc, arriver tout d'un coup à reprendre un peu son jugement, un peu plus de libre arbitre dans ses choix, c'est quelque chose qui redemande la quête d'une autonomie de pensée. Mais en fait, ce n'est pas une autonomie.
Là, c'est très compliqué. Il faut être très cultivé, à la fois très informé et en même temps pas trop informé, parce qu'on est souvent surinformé.
Oui.
C'est dur hein, de retrouver son libre arbitre.
Ben oui. Mais oui, c'est un bel objectif.
On y gagne quoi ?
On y gagne que c'est moins coûteux. Moins coûteux émotionnellement.
Nous arrivons au Muséum d'Histoire Naturelle. On s'y retrouve dans un instant avec Jean-Louis Etienne.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Louis Etienne sur Europe 1.
Un changement de paysage pour Frédéric Taddeï et l'explorateur Jean-Louis Etienne pour la suite de leur balade ce dimanche.
Nous sommes à présent dans la grande serre du Jardin des Plantes, donc dans une jungle en fait. Hein, température, tout est exotique, les odeurs.
L'odeur, la température et l'architecture de cette serre est majestueuse. C'est une espèce de cathédrale de la nature. Quoi,
hein, ça date du 19e siècle, hein, ou même peut-être plus ancien d'ailleurs. Parce que le Jardin des Plantes ayant été Et ça a été le deuxième zoo d'Europe après celui de Ratisbonne. Donc tout est très ancien dans le Jardin des Plantes. La ménagerie comme les grandes serres. Donc forêt tropicale, désert aride, toutes les plantes exotiques ramenées des contrées lointaines par d'autres explorateurs.
Les explorateurs,
mais
oui.
C'était du ensuite temps, planté ici.
C'était du temps où on explorait la planète à l'échelle 1, c'est-à-dire celle du regard. Et les explorateurs ramenaient de leur voyage, des échantillons, à la fois des prélèvements animaliers. Donc,
on est devant un caféier.
Un caféier.
Qui vient d'Afrique de l'Est.
Ce que j'adore, c'est le silence. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a un côté religieux. Hein, quand on rentre dans une cathédrale, cette espèce de silence.
Mais on a la même chose dans les forêts vierges.
Dans les forêts vierges, oui. Là, ils n'ont pas mis d'animaux. Dans les forêts vierges, on a quand même quelques animaux qui se manifestent. Un bananier. Et ce qui est fascinant et qui me fascine dans le végétal, c'est la capacité des plantes. On dit qu'elles sont autotrophes. Ça veut dire qu'une plante regarde le soleil, elle a les pieds dans l'eau, elle va prendre le gaz carbonique de l'air avec lequel elle va faire du glucose, donc du sucre, donc l'énergie. Et elle trouve sa nourriture là où elle a élu domicile.
Donc elle est vraiment autonome.
Et encore une autonomie terrible. Mais elle a choisi son domicile et elle n'en bougera plus. C'est ça qui est extraordinaire. Quoi, hein. Et donc, la plante va passer son temps à produire sa propre énergie. Les hétérotrophes, autotrophes, la plante, hétérotrophes que nous sommes, on doit partir à la conquête de la nourriture. Nous, on ne sait pas se nourrir en regardant le soleil avec les pieds dans l'eau. Donc, on doit partir à la conquête. Et la plante, c'est la magie qui crée ce qu'on appelle la production primaire, c'est-à-dire ses feuilles, tout ce que l'on voit, ses arbres, etc., qui est le point de départ de toutes les vies. Voilà. Et donc, la magie des plantes, c'est ça.
Mais d'ailleurs, pendant le siège de Paris, qui a duré 4 mois et demi, en 1870, les Prussiens nous assiégeaient. Les Parisiens n'avaient plus rien à manger, il n'y avait pas de rationnement. Et les bouchers et les restaurateurs ont fini par se partir à la conquête de leur nourriture, ici même, au Jardin des Plantes. Ils ont commencé à manger, à acheter, à tuer, à manger les animaux de la ménagerie. Et d'abord, les yaks, les zèbres, ensuite les antilopes, les loups, les éléphants. Les deux éléphants ont été mangés. Je crois qu'ils n'ont laissé que les singes parce que c'était un peu trop proche des êtres humains pour les consommer.
Ah oui, il n'y avait quand même pas de quoi nourrir une grande ville.
Non,
quoi,
non, hein, mais ça suffisait pour nourrir les riches qui allaient au restaurant. C'est surtout les pauvres qui en ont bavé. Mais même les riches mangeaient du rat. Vous avez déjà mangé du rat?
Pas encore, non, mais on peut en manger. Hein.
À l'époque, c'était assez courant.
Les souris, du rat. Les rats. Il y en a beaucoup à Paris en ce moment, si jamais il se passait quelque chose.
Hein. Vous parlez beaucoup de l'autonomie alimentaire dans votre livre. Ça fait partie des projets qu'on peut avoir aujourd'hui. Cultiver son potager sur son balcon, sur sa terrasse, sur le haut de l'immeuble, dans son jardin.
C'est des projets qui ne vont pas solutionner la fin dans le monde, mais c'est des projets sympas de regarder pousser. De regarder pousser quand ça prend racine. Et puis après, donc sur votre balcon, et quand vous commencez à cueillir les petites cerises, ou les tomates cerises sur votre balcon, et que vous goûtez ça et que vous le trouvez bon, il s'est passé quelque chose, vous voyez.
On est sûr au moins de ne pas se faire empoisonner, puisque déjà, on a tellement peur d'être empoisonné par l'alimentation.
Et puis vous y avez mis vos restes de bananes, vos épluchures, etc. Donc créer ce cycle magique de la nature, cette autonomie à partir de chez soi. De chez soi, avec un balcon, peu importe, à l'intérieur, il suffit qu'il y ait un peu de lumière. Donc, ça vous donne le goût des choses.
On passe près d'une cascade.
Oui.
Une cascade artificielle, bien entendu. Nous sommes dans une serre. Il y a des poissons rouges. J'ai été quelques fois dans des pays assez lointains et on s'y retrouve assez bien, vous aussi, Jean-Louis Etienne. On pourrait être à Bali, on pourrait être à Lombok.
Quelle température il fait, là?
J'en ai pas la moindre idée.
28, 29, il fait chaud quand même.
Hein. Oui, il fait très chaud. Ouais.
Donc, je pense qu'il ne chauffe pas, mais c'est la vraie serre. C'est-à-dire, elle capte la chaleur du soleil qu'elle emprisonne. C'est l'effet de serre. Il est là, l'effet de serre. L'effet de serre construit, volontaire, bâti, qui n'est pas celui qu'on subit avec les excès de gaz carbonique dans l'air. Les plantes s'y retrouvent. Quand vous donnez à manger aux plantes du gaz carbonique, elles se développent davantage. Et on se rend compte qu'il y a certaines productions qui bénéficient de cet excès de CO2 qui se développe davantage.
Je vous propose d'écouter de la musique tropicale, ça me paraît le bon endroit. What a Wonderful World par Israël Kamaka, Oui Oui Olé, très célèbre chanson, mais jouée un petit peu différemment, à la façon tropicale.
Trees of Greenland, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and the think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? Really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. said, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world.
C'était Israël Kamaka Wiwole qui chantait What a Wonderful World. Et nous sortons de la grande serre du Jardin des Plantes avec Jean-Louis Etienne. On va aller retrouver votre ami Titouan Lamazou à la cafétéria du muséum. Ça s'appelle La Baleine.
Il est temps de s'hydrater pour Frédéric Taddeï et son invité du jour, Jean-Louis Etienne. Et d'ailleurs, ils viennent d'être rejoints pour l'occasion.
Nous sommes assis à La Baleine, la cafétéria du Jardin des Plantes, avec une belle vue sur les Jardins des Plantes. Il y a Jean-Louis Etienne, bien sûr, et Titouan Lamazou, navigateur, dessinateur, peintre. Vous êtes rencontré sur le Penwick 6, le navire de Tabarly, hein ?
Oui, c'était en 77. On a fait la course autour du monde, 77-78, avec Eric. Moi, je suis arrivé de la campagne.
En tant que médecin ?
Moi aussi, un petit peu de la campagne. En fait, on était les deux seuls équipiers parmi ces Bretons, n'est-ce pas ? Les deux seuls équipiers du Sud-Ouest. Voilà, et c'est pour ça qu'on est devenus très amis.
Ça fait, c'était copain.
Et ça fait 40 ans que ça dure. Et, oui. Et on a quand même pas mal de... On partage une communauté de pensées.
Vous êtes resté navigateur, hein, premier au Vendée Globe en 90, champion du monde de course au large en 91.
Ça s'est arrêté là. Hein.
Oui. Bah, y a eu le bateau atelier après.
Ah, le bateau atelier est en cours. Voilà. En cours. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir d'être au muséum parce que nous sommes en convention avec le Muséum d'Histoire Naturelle.
Et vous êtes exposé à Saint-Palais-sur-Mer en ce moment, en Charente-Maritime.
À Saint-Palais, hein, oui. Ouais. Saint-Palais,
vos dessins, vos peintures.
Peintures, oui. C'est une sorte de... Enfin, c'est un peu tôt, mais c'est une sorte de rétrospective. Et puis ça commence avec le premier tableau qu'avaient accroché mes parents dans leur salon quand j'avais 11 ans. Et, l'exposition s'achève sur les dernières œuvres que j'ai exposées.
Ça représentait quoi, ce premier tableau ?
Ça représentait, je m'en souviens très bien, j'étais en Tunisie. Et ça représentait le port d'Arcachon, parce que mes parents m'avaient raconté que les pêcheurs d'Arcachon avaient des pantalons rouges. Mon premier tableau était un tableau de bateau, toute voile dehors dans un port, mais enfin peu importe.
Que vous n'aviez jamais vu.
Et que je n'ai jamais vu, sur lesquels je n'avais jamais embarqué. Et voilà, ça m'inspirait déjà tout jeune, la mer m'inspirait.
Si on rejoint la notion d'autonomie qui nous préoccupe depuis un moment, Titouan fait sa vie avec ce qui le passionne et ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il est bon, la peinture, le dessin. Depuis quel âge ? Depuis 11 ans, tu disais ?
Où j'avais décidé d'être artiste, oui. Ouais.
Il a même fait les Beaux-Arts et il s'est barré pour faire de la navigation. Mais comme vous, vous êtes barré pour gravir les montagnes.
Oui, et c'est ça que j'appelle se faire des outils. Parce que quand vous êtes navigateur comme il est, vous pouvez déjà choisir une destination. Vous pouvez... C'est ça qui est important. Et ce que j'aime dans son choix, c'est la fidélité à ses choix. Parce que, bon, je connais bien Titouan, c'est pas tous les jours facile, c'est difficile d'être un artiste, de vivre de ça, c'est compliqué. Mais je dis tout le temps, si vous avez une idée, consacrez du temps, du travail, de la persévérance, parce qu'on est tellement mieux sur les choix que l'on fait des choses qui vous portent, quoi. Et ça, ce que j'aime bien chez Titouan, ça dure depuis longtemps. Et
oui, c'est ce qui nous rapproche, d'ailleurs. On a des points communs, oui. Lui, c'était le médecin du bord, moi, j'étais l'artiste du bord. sous les ordres du plus prestigieux capitaine de l'époque.
Comme du temps de Bougainville, où on emmenait à la fois des médecins et des dessinateurs qui ramenaient les dessins des animaux et des plantes qu'on avait croisées sur le trajet.
D'ailleurs, le projet du bateau-atelier, avec en moins les notions hégémoniques de l'Occident, n'est-ce pas ? C'est en droite ligne du bateau de la Pérouse qui embarquait effectivement des intellectuels, des écrivains, des artistes, des scientifiques à son bord. Donc on n'invente rien, vous savez.
Dans votre livre, Jean-Louis Etienne, vous parlez de Mike Birch, le vainqueur de la première course du Rhum en 78. Oui. Vous racontez qu'à 87 ans, il a vendu tous ses biens pour aller vivre sur un petit bateau de 10 mètres qu'il avait aménagé de ses mains et qu'il a quitté la France où il avait vécu 40 ans. Avec une valise comme seul bagage. Et ça, c'est pour un type qui est obsédé par l'autonomie comme vous, c'est un type formidable.
Avec extraordinaire. Je l'ai rencontré au salon du livre de Vannes. Et donc, il avait plié boutique. Hein. Il lui restait pas grand-chose. Il avait vendu sa maison. Il avait vendu sa maison en Gaspésie. Je crois qu'il en avait une. Et il lui restait ce bateau sur lequel il s'est tout faire. Et il quittait la France après 40 ans.
Sans parler un mot de français.
Oui, ça c'est, oui.
Il était resté autonome.
Oui. Mais attends, il partait après 40 ans de vie en France pour rejoindre son bateau. Il ne fallait pas qu'il amène grand-chose. Son bateau n'est pas géant, avec une valise. Ça a été bluffé.
Et vous racontez, d'ailleurs, vous essayez à un moment de vous débarrasser de plein de trucs, vous n'y arrivez pas. Vous appelez ça les fardeaux du passé, vous.
Oui, mais j'y suis arrivé pas mal à un moment donné quand j'ai dû déménager, où j'avais deux garages, un endroit ou un appartement où il n'y avait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi ? Et là, ça a commencé à faire le tri. Et quand on fait le tri, on dit, on le garde. Pas ça, je peux le jeter, mais ça, on verra. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais attends, ce truc-là, ça fait 10 ans que je ne suis pas revenu dessus. Des National Geographic, j'avais une magnifique collection. Mais j'y vais plus, on va sur Internet pour un truc comme ça. Et ça pèse une tonne.
Et l'éloge du dénuement, c'est pas... Il y a beaucoup de navigateurs, je pense à Bernard Moitessier, par exemple, qui, lui, n'avait rien non plus. Et moi, j'essaye, ce sont des modèles pour moi, j'essaye d'ailleurs de les imiter, c'est pas toujours facile d'avoir rien. Et moi, je me vante parfois. Enfin, c'est peut-être une histoire de se faire une raison, mais je ne possède strictement rien.
Oui, c'est ça. Beaucoup de navigateurs.
J'ai pas de maison. J'ai un scooter, mais encore, je me suis aperçu récemment qu'il était en fait en leasing. Il est en location. Il ne m'appartient même pas.
Tu vois, ce que ça m'a inspiré. J'ai une amie qui m'a appelé. Son mari était mort. C'était un alpiniste. Elle avait une maison, il y avait beaucoup de choses qui lui appartenaient. Et elle me dit, mes filles ne veulent pas s'en occuper, c'est une grande maison, il va falloir que je déménage. Et là, je me suis dit, je ne vais quand même pas confier à mes enfants le soin de faire le tri des choses que j'ai, c'est à moi de le faire.
Oui, parce que souvent, les enfants gardent tout. Papa aimait ça.
Exactement, j'imaginais papa. Voilà. Oui, papa aimait ça, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, il aimait ça. Voilà. Et donc, pour essayer de limiter un peu ces choix douloureux, j'ai décidé de me débarrasser de beaucoup de choses, oui.
Est-ce que vous étiez ensemble, tous les deux, au cours de cette traversée avec Tabarly ? Vous aviez raconté ça dans un livre précédent, Jean-Louis Etienne. Vous avez une avarie tout à coup et vous êtes obligé d'aller à Bora Bora et vous retrouvez au Club Méditerranée. Ça doit être très drôle quand on a souffert pour arriver là et qu'on se retrouve au Club Med. Pour des gens comme vous, en tout cas dans cette situation-là, comment vous voyez les touristes, vous, Titouan Lamazou, en tant que navigateur, ou vous, à ce moment-là, médecin sur le PN2X6 ? Vous voyez comment les touristes, et particulièrement les touristes du Club Med, sont des extraterrestres pour vous ?
Non, ils mènent leur vie comme ils peuvent, quoi, souvent, ou comme ils veulent, quoi. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en ferai pas du tout mon existence, même le temps de séjour, quoi.
C'est toujours ambigu de cette question. On peut se dire, parce que moi j'ai passé ma vie comme Jean-Louis à voyager.
Vous êtes des touristes aussi.
On est des sortes de touristes, mais quand même. On gagne notre vie en faisant ça, donc on est des voyageurs.
Vous souffrez pour arriver jusque-là.
Souffrez, enfin on y retourne, donc on ne doit pas souffrir tant que ça. Et je pense que non, je suis plus affecté par le développement du tourisme dans certains endroits qui porte préjudice à la nature et qui n'amène aucune. Ce qui pourrait être paradoxalement, ça n'amène aucun contact avec la population locale. Donc il y a des excès dans ce domaine du tourisme de masse. Et c'est très délicat à lutter contre ça, parce qu'on voit vous dire, bah oui, vous êtes marrant, vous partez tout le temps en voyage, etc. Et nous, il faudrait qu'on parte pas. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens, un peu partout dans le monde, même dans des îles très isolées, comme les Marquises ou les îles Sous-le-Vent à Tahiti, où plein de gens essayent de réfléchir sur le tourisme pour en faire un tourisme de proximité, un tourisme responsable, et d'essayer de justement de lutter, on peut dire lutter, contre ce tourisme de masse avec des paquebots qui sont des aberrations, aberrations écologiques.
Ils débarquent dans des villes essentiellement, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, le tourisme en Antarctique, par exemple, se développe. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire « regardez comme c'est magnifique », mais surtout, n'y allez pas. Donc c'est évident que...
C'est dur d'y aller, hein. On peut pas... il faut un permis, il faut...
Oui, mais le tourisme en Antarctique, pour prendre celui-là, c'est assez réglementé. Ce sont des bateaux qui ont une centaine de personnes, enfin 150 personnes, sont des petits bateaux qui sont encadrés par des biologistes, des gens qui les... Les guides, moi, j'ai fait des conférences sur le bateau du Pôle Nord, donc je vois ce que c'est, et c'est un encadrement extrêmement strict, quoi. Hein. On se lave les pompes, les chaussures avant de monter, avant de descendre. En fait, il y a limitation totale d'espèces introduites, ne serait-ce que des petites graines qui sont dans la poche de votre parka. On vous dit non, vous laissez la parka là, on va vous donner une parka qui est dans laquelle il y a rien. Donc ce tourisme-là, il est assez organisé. Ce n'est pas un tourisme de masse comme on peut le voir ailleurs.
Ça va être les informations. On va vous laisser, Titouan Lamazou. Merci de nous avoir rejoints ici.
Merci.
Et nous, on va se diriger vers le Collège de France avec Jean-Louis Etienne. Vous nous expliquerez pourquoi vous tenez tant à aller
les
au Collège
du futur.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Louis Etienne sur Europe 1.
Les titres du journal de la mi-journée, c'est avec Fabienne Lemoyle. Bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. À la une de la mi-journée, l'hommage national pour les deux soldats morts en opération spéciale au Burkina Faso qui se prépare. Ce sera mardi dans la cour des Invalides à Paris, mais vous l'entendrez dans la commune d'où était originaire l'un des commandos marines, Alain Berton-Selot. On a déjà mis les drapeaux en berne. C'est dans la journée que les corps des deux militaires doivent être rapatriés en France. Depuis hier, beaucoup de questions sur le risque pris par les deux touristes français en allant en vacances au Bénin. Était-il dans une zone rouge, dont formellement déconseillé, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Nous ferons le point avec Jean-Sébastien Soldaini. Toujours dans le journal de la mi-journée, un rapport parlementaire sur la crise du glyphosate qui risque de faire beaucoup de bruit. Document rendu public normalement jeudi, mais dont le rapporteur livre les premières conclusions aujourd'hui en assurant qu'aucune étude scientifique ne prouve formellement que le glyphosate est cancérogène. Nous ferons le point. La campagne européenne bat son plein à 2 semaines du scrutin et alors que La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude dans les sondages, la tête de liste du Parti communiste Yann Brossa dit qu'il ne veut pas se laisser enfermer dans un duo Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Il dit même que le président prépare la victoire de la présidente du RN. Il était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos, vous l'entendrez. Le mouvement des Gilets jaunes est-il en train de s'essouffler? Encore moins de monde dans la rue hier que la semaine dernière. Nous en parlerons avec mon invité Michel Pigenet, historien des mouvements sociaux. Le journal des sports avec Guingamp qui va essayer de sauver sa tête en Ligue 1 face à Rennes cet après-midi. Et puis la météo, le soleil est de retour, mais attention au vent, il va souffler très fort sur les Bouches-du-Rhône jusqu'à ce soir. Jusqu'à 140 km/h en rafale près de la Ciotat, nous dit Valérie Darmon.
Merci Fabienne, on vous souhaite un très bon week-end avec Europe 1. On est le 12 mai et il est midi.
Europe 1, en balade avec Jean-Louis Etienne, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec l'explorateur Jean-Louis Etienne qui publie « Oser l'autonomie » aux éditions Rustica. Nous sommes rulinés, on sort du Jardin des Plantes, on se dirige vers le Collège de France. Vous avez passé 63 jours au pôle Nord en tirant sur votre traîneau, Jean-Louis Etienne. Vous avez traversé l'Antarctique en traîneau à chien, ça a duré 7 mois. Vous avez traversé l'océan Arctique en ballon.
Oui.
Plus de 3000 km.
Ah oui.
Ça a duré 5 jours. Vous êtes resté plusieurs mois sur l'atoll de Clipperton.
Un atoll désert.
7 km2.
Français.
Dans le Pacifique. Vous avez été sur l'île Malaya. Vous avez été en Patagonie. Est-ce que vous avez essayé l'espace? La Lune, vous êtes retiré.
La Lune, forcément. Mais l'espace, oui. D'ailleurs, en 1983, il y a eu une proposition pour les civils.
de pouvoir partir dans l'espace.
Oui.
En France, oui.
En France, oui.
C'est là que Claudie Aigneret est partie.
Eh oui, oui, oui. Elle avait été sélectionnée, Claudie. Moi, je n'avais pas été sélectionnée.
Elle avait été candidat.
Moi, j'avais été candidat, oui. Et alors, il se trouve que quelques années après, j'avais rencontré le président du CNES, qui était à la retraite et qui avait eu accès au dossier. Et il m'a dit, vous étiez numéro 9, on en a pris 8.
Merde. C'est pas vrai.
Merde. Et alors, il m'a dit, il vous a manqué un truc, c'est que vous n'aviez pas fait de publication scientifique. Par contre, j'avais défendu mon dossier sur deux points, en disant que les gars qui partaient à l'espace, au sol, ils faisaient les manips qu'ils vont faire là-haut, ils le faisaient 100 fois, quoi. Hein. C'était des robots humains, en fait, extrêmement rodés. Et moi, j'ai dit, écoutez, je suis super bricoleur et je suis un super campeur. Donc
je peux être utile.
Donc je peux être utile, voilà. C'est ce que j'avais défendu. Alors ça ne veut pas dire si j'avais été pris que j'aurais embarqué, parce que c'est extrêmement rigoureux. En fait, Claudie Aigneret nous a raconté ça. Oui, c'est très éprouvant, quoi. J'aurais peut-être pas été sélectionné dans les tests.
Et alors après tous ces voyages extraordinaire que vous avez fait dans des conditions souvent extrêmes. Comment vous trouvez Paris ?
Il y a deux choses. C'est, j'ai habité 2 ans aux États-Unis il n'y a pas longtemps et je revenais tous les mois à peu près et je trouvais Paris magnifique. C'est une architecture exceptionnelle. Quand on longe la Seine comme ça, que tous ces bâtiments magnifiques, en fait, toute cette histoire. Donc Paris est une ville magnifique. Ce qui me pèse, c'est la densité humaine, quoi. Hein. Hey. Mais elle pèse à tout le monde. Et j'habite toujours en haut des immeubles.
Il vous faut
l'air. J'ai besoin de voir le ciel. Et pour moi, le ciel, c'est la mer de Paris. Hein, donc j'ai besoin de ça.
Vous êtes construit une maison dans les arbres, d'ailleurs, oui, dans le Tarn, hein, dans votre village natal.
Oui, c'est ce que j'appelle mon port autonome. Et oui, je l'ai construite. J'y ai participé à une et l'autre, je l'ai construite. Et c'est toujours dans ma tête. C'est toujours dans ma tête. Je peux m'y projeter facilement. Mais Paris, c'est entre guillemets un outil de travail formidable.
Et le Tarn, quand vous y retournez, vous n'êtes jamais dépaysé ?
Non, le Tarn, surtout que j'ai construit cette cabane, ces maisons, sur une colline, dans un bois paumé, qui domine la vallée de la Goude, donc du village où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai été même médecin, parce que j'ai fait des remplacements.
Là où vous n'aviez pas l'eau courante, on en parlait au début de cette émission.
Oui, et alors ?
Quand vous étiez enfant ?
Quand on voyage, on trouve toujours un coin en se disant « Putain, là je reviendrai parce que c'est beau, je construirai une cabane, c'est ici que je veux ». Et un jour, ça a été Vielmur, ce village du Tarn, où j'ai décidé de... Alors, peu de temps après, j'étais déçu en me disant « Mais attends, j'ai cherché ma maison dans le monde entier, je me retrouve là. »
Là où je suis né.
Là où je suis né, où tout le monde me connaît, etc. Voilà. Et en fait... Je dis tout le temps racine oui, enracinement non. En fait, c'est très porteur d'avoir un secteur où vous pouvez à tout moment vous retrouver. Et ça, c'est...
Est-ce qu'il faut être autonome de ses racines, vous qui prenez l'autonomie ?
Oui. Oui. L'autonomie, c'est, pour moi, c'est synonyme de liberté. Être autonome, de pouvoir décider, de pouvoir... Et la liberté, elle ne se gagne pas sur les autres. Elle se gagne sur soi, sur ce qu'on est capable d'accepter de sa vie pour faire les choses qu'on aime, faire des orientations. C'est vrai que j'ai fait des choix à un moment donné, j'ai quitté des postes qui étaient prometteurs, mais j'avais quelque chose de plus fort qui m'appelait. Et je me suis octroyé cette liberté de choix. Alors des fois, on me dit, mais pour vous, ça a l'air facile, vous avez la passion. Attends, la passion, c'est comme le feu. Hein. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête. Quoi, hein. Et donc... Tout exercice de choses que l'on aime, c'est pas plus facile. Ça demande simplement du travail, du temps, la persévérance. C'est ce que je me suis accordé. Ouais. Europe
1. Eh bien, on continue notre balade avec Jean-Louis Etienne dans le 5e arrondissement. On va vers la rue des Écoles.
Frédéric Taddeï en balade avec Jean-Louis Etienne sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï est en balade avec Jean-Louis Etienne et on continue tout de suite d'en apprendre plus sur l'explorateur.
Nous voilà à rue des Écoles, en plein quartier latin, avec Jean-Louis Etienne. Les gilets jaunes, vous les trouvez comment, vous ?
Ben, je pense que ceux qui ont lancé le mouvement avaient des idées, avaient des revendications, ont choisi les réseaux sociaux pour diffuser leur volonté. Et puis maintenant, ils se sont fait coloniser, quoi. Hein. Ça ne ressemble plus à grand-chose. Et il me semble que si j'étais un gilet jaune responsable, je dirais stop. On est complètement dénaturé par rapport à ce qu'on voulait faire. On reprendra le chantier quand on aura assaini la situation.
Vous, Jean-Louis Etienne, vous avez toujours été autonome des mouvements politiques, de la politique en général.
J'ai eu des tentations, j'ai même eu des propositions de la part du président Mitterrand. Un jour, le président Mitterrand m'a donné rendez-vous à l'Élysée de 17h à 17h30 ou de 16h, je sais pas, une demi-heure en fin de journée. Et en fait, il voulait m'accompagner en politique sur une élection législative et me proposer au ministère de l'Environnement. Et je dis, président, je pars à l'Erebus.
C'est où ?
Et il me dit, c'est où et c'est quoi l'Erebus ? Je dis, c'est un volcan en Antarctique. Et il a eu une réponse, il m'a dit, là, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Attention. Et en sortant de l'Elysée, je me suis dit, j'avais plus de 40 ans, je me suis dit, mais tu es stupide. Tu vois. C'était une main tendue extraordinaire. Quoi, hein. Et je suis allé voir Haroun Taziev. Haroun Taziev qui a eu cette expérience.
Qui lui-même avait été ministre.
Attends, il était secrétaire d'État aux catastrophes naturelles majeures. Et il m'avait dit, tu as bien fait, on n'est pas taillé pour ça. Quoi, il m'avait dit. Il m'avait rassuré un peu sur ce choix.
Vous auriez pu devenir le Haroun Taziev, le commandant Cousteau, le Paul-Émile Victor, leur successeur naturel, au fond, après votre conquête du pôle.
Oui, oui, souvent, effectivement, on me voit dans la lignée en prenant de l'âge. Effectivement, on se situe dans les anciens. Je leur ai demandé des parrainages. Quand je suis allé à l'Erebus, Haroun Taziev me parrainait. J'étais très fier d'avoir Haroun Taziev comme parrain, Paul-Émile Victor. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des jeunes qui viennent me voir, qui font des expéditions et qui me demandent un parrainage. Et on évoquait tout à l'heure avec Titouan Lamazou la course autour du monde avec Tabarly. Quand sur son curriculum vitae, on avait course autour du monde avec Eric Tabarly, ça, c'était un tampon qui valait de l'or.
C'est sûr.
Hein, et on avait une crédibilité formidable.
Moi, je pourrais dire que j'ai marché avec Jean-Louis Etienne.
On a pris quelques risques, d'ailleurs, au Carrefour tout à l'heure.
Oui, j'ai remarqué que vous êtes beaucoup plus prudent que moi. Vous êtes attentif aux voitures qui passent. Mais il faut dire, vous avez été dans des contrées où il n'y avait pas de voiture du tout. Vous semble une menace à chaque fois qu'il y en a une qui approche.
J'ai arrêté le scooter il n'y a pas très longtemps. J'ai 72 ans. J'ai arrêté il y a 2 ans maintenant. Et donc, je suis devenu piéton. Et j'aime ça. J'aime marcher. Mais je suis devenu peureux. Mais là, je prépare une autre expédition... Le Polar Pod qui va dériver autour de l'Antarctique pour étudier cet océan. Ça fait presque 10 ans que j'y travaille. C'est une énorme cathédrale aussi de l'exploration océanique autour de l'Antarctique. C'est vrai que j'aurais pu me décourager souvent, mais je sais d'expérience que tenir, la persévérance, il y a des moments de marée basse, et puis de temps en temps, une rencontre, un livre. Voilà, c'est des choses comme ça qui me font tenir.
Mais je me suis souvent dit, Jean-Louis Etienne, quand on est parti comme vous si souvent en solitaire, on pourrait vous imaginer misanthrope, sauvage. Je n'ai pas du tout cette impression. J'ai l'impression que vous aimez profondément le genre humain,
oui,
que vous
oui.
aimez les gens autour de vous.
Absolument. Absolument. Il y a une chose, c'est que j'ai besoin d'heures de solitude, toujours. Comme on fait un reset un peu, j'ai besoin d'apaisement, de calme. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. La solitude, ou en solitaire, ne m'a jamais pesé. Magnifique, hein ?
Oui, c'est le passage du Clos Bruno. Nous sommes dans la rue des Écoles. Là, nous arrivons au Collège de France, sur la place Marcelin Berthelot. C'est quoi le Collège de France pour vous ? Vous n'y avez jamais enseigné, hein ?
Mais non, mais attends, mais quoi ? Collège de France, École Polytechnique, ce sont des noms... qui sonne comme la compagnie des guides de Chamonix. Pour moi, c'est la même chose.
Il y a le vieux campeur aussi, pas loin.
Le vieux campeur.
Il aurait des écoles, le vieux campeur.
Ben oui. Les compagnons qu'on a évoqués, ce sont des grandes institutions qui sont très inspirantes.
Le Collège de France, alors il faut le savoir, peu de gens le savent au fond, c'est que au centre de Paris, créé par François Ier, il y a ce Collège de France où les plus grands spécialistes enseignent les choses les plus pointues de notre époque. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, on peut y entrer et les écouter.
Oui, et il m'arrive d'y aller, je les recommande. parce qu'en fait, ce sont des enseignants, des professeurs qui possèdent bien leur sujet et qui le possèdent tellement bien qu'ils ont passé au tamis les mots aisés que l'on peut comprendre.
Et celui que nous allons voir ?
Ah, celui que l'on va voir. Ce qui me fascine, c'est que on est dans une période où on parle du réchauffement climatique, l'excès de gaz carbonique dans l'air. La seule chose qui peut soustraire du gaz carbonique de l'air, c'est la plante.
On pourrait récupérer le gaz carbonique.
Par la photosynthèse. Et l'idée, c'est d'exploiter cet excès de gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère par la combustion des énergies fossiles pour refaire avec une sorte de feuille synthétique, de photosynthèse synthétique, refaire du combustible à partir de ce que l'on a envoyé dans l'atmosphère, espèce de refermer la boucle, de refermer le cycle.
Eh bien, on va retrouver dans un instant Marc Fontcave, le titulaire de la chaire chimie des processus biologiques au Collège de France. Mais d'abord, puisqu'on marche beaucoup, on va écouter Tim Timecomb interpréter Walking in the Rain.
Walking down the street, the billboard also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking. No, no, make it when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is mine, you die, walking. Jesters and all you fools, sit down, no, no, ogre ghouls, trip like fantastic, dance to swivel head. Up your lips, walking, walking in the rain, walking, walking in the rain,
c'était Walking in the Rain, interprété par Tim Timecomb, hommage aux marcheurs et à Jean-Louis Etienne.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Louis Etienne sur Europe 1.
C'est avec une très très belle vue que Frédéric Taddeï et le médecin et explorateur Jean-Louis Etienne terminent leur balade.
Nous sommes sur la terrasse du bureau de Marc Fontcave, qui est le titulaire de la chaire chimie des processus biologiques au Collège de France. Un bureau, enfin une terrasse qui a une vue absolument exceptionnelle. On voit Notre-Dame, le Sacré-Cœur, la Sorbonne, le Panthéon. Tous les professeurs sont logés à la même enseigne ?
Non, moi j'ai une chance un peu particulière d'avoir ce petit espace spécifiquement attenant à mon bureau. Voilà,
c'est... mérite.
Non, pas du tout.
C'est un bâtiment qui en a vu. Hein. Il y a eu Langevin, Joliot-Curie, oui. Serge Haroche, notre prix Nobel de physique, oui. Est ici, lui, oui. Aussi. C'est une concentration de cerveau assez extraordinaire.
Oui, c'est un établissement très, très particulier. Je recevais tout à l'heure une collègue de UC Davis, Californie. Je lui racontais un peu le fonctionnement de ce Collège de France et elle me disait, je ne vois pas ce qui existe comme ça aux États-Unis et je pense que dans le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire à la fois quelque chose de très sélectif, puisqu'il n'y a que 50 professeurs, c'est un tout petit établissement, et en même temps, donc élitiste, et en même temps, totalement ouvert, puisque n'importe qui... peut rentrer de la rue dans le Collège de France pour aller écouter Philippe Aguillon.
Voilà. Ce que nous avons fait d'ailleurs avec Jean-Louis.
D'accord, on ne demande pas de carte d'identité, on n'a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas d'examen.
Et les étudiants ou les chercheurs qui sont là, ils sont recrutés comment ?
Les chercheurs sont recrutés comme, je dirais, dans tous les très bons laboratoires, sur une base aussi très sélective. Ils viennent du monde entier. Ici, vous avez dans mon laboratoire, vous avez à peu près trois quarts d'étudiants, donc doctorants et post-doctorants, qui sont étrangers.
Alors justement, Jean-Louis Etienne se passionne pour vos travaux, se passionne pour l'énergie en général. Pour,
merci.
Oui. Devenir son propre fournisseur d'énergie.
Non, mais c'est sûr que... Enfin, moi, je pense à cette idée-là de devenir autonome à travers la mise à disposition à l'échelle d'une maison, certes,
oui, oui.
Mais peut-être d'un quartier, d'un village.
Exactement.
Et c'est d'autant plus vrai que ça se passerait dans des pays qui ont peu accès à l'énergie, mais qui sont dotés de soleil, par exemple, et
oui.
À qui, alors pas aujourd'hui, parce que les dispositifs technologiques qui font ça, c'est-à-dire qui convertissent l'énergie solaire en carburant, sont encore trop chers. Mais si on était capable de fournir à tout un tas de pays en Afrique, de régions en Afrique, en Inde, etc. Tous ces dispositifs-là, des villages entiers pourraient vivre avec le soleil.
Oui, et nous, à Paris, on pourrait vivre avec les énergies renouvelables. Jean-Louis Etienne n'a pas l'air de penser...
Le calcul que j'ai fait avec un ingénieur de la RATP, il faudrait 800 éoliennes de 2 MW et 20 km/h de vent pour faire tourner le RER et le métro.
400 éoliennes, c'est beaucoup.
Alors, c'est intéressant de prendre des images comme ça, de manière à ce que les gens comprennent à qui on fait croire, entre guillemets, qu'on pourrait tout solutionner avec le soleil et le vent, sont déçus. Et donc, il faut faire toute cette pédagogie. Et donc, j'ai vu que vous faites ça. Et ça, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce que vous faites là.
Alors, écoutez, moi, je suis très heureux que vous disiez cela, parce que autant je passe ma vie à essayer de résoudre ce problème de l'utilisation de l'énergie solaire à travers cette approche de photosynthèse.
Oui.
Artificielle, bio-inspirée, et de résoudre aussi les problèmes de stockage, j'en dirais juste un petit mot. Autant, effectivement, je ne rentre pas dans ce discours que je trouve déplacé et incorrect, que, en effet, instantanément, ces énergies-là, donc dans l'année qui vient ou dans les deux années qui viennent, dans cette ambiance catastrophiste que nous vivons, allaient remplacer le nucléaire et les énergies fossiles. Les gens oublient que la densité surfacique, c'est-à-dire la quantité d'énergie par unité de surface, est faible. Ce qui veut dire que, en effet, le jour où on voudra utiliser massivement ces énergies-là, il faudra qu'on accepte d'y consacrer une surface absolument considérable.
Oui, 400 éoliennes, ça prend de la place.
Oui, ça, on oublie ça.
Ouais,
on oublie ça.
Il ne faut pas décourager les gens. C'est ça, c'est tout le chemin qu'il faut trouver. C'est qu'on consomme beaucoup d'énergie. On a une dépendance à l'énergie qui est énorme. En leur disant qu'on ne pourra pas couvrir les besoins domestiques, on l'a évoqué. Je pense qu'à l'échelle d'une famille ou d'un quartier, peut-être d'une petite ville, je pense qu'on peut couvrir les besoins domestiques.
Oui, alors, je voudrais vous faire faire le calcul suivant que je fais lors de mes conférences, mais pas plus tard que la semaine dernière à Lyon. Si vous prenez la consommation électrique d'une famille française et vous imaginez un monde dans lequel cette maison a des panneaux photovoltaïques et dans la cave, un électrolyseur qui convertit de l'eau en oxygène et en hydrogène, des bonbonnes d'oxygène et d'hydrogène qui viennent de la décomposition de l'eau. Et quand il fait nuit, cet hydrogène, qui est une forme stockée de l'énergie solaire, peut être utilisé dans une pile à hydrogène, une pile à combustible, pour alimenter la maison, la voiture, si elle est électrique, enfin, etc. Et je vous pose la question, vous faites un petit calcul, quelle quantité d'eau par jour je dois transformer en hydrogène et combien de panneaux photovoltaïques il me faut ? Alors quand je pose cette question, évidemment, c'est assez difficile si on n'a pas les chiffres pour faire les calculs, encore que le calcul est simple.
Quelques litres d'eau.
Voilà, c'est 2 litres d'eau.
Ouais,
si vous avez uniquement 2 litres d'eau dans votre maison, et en incluant, et je fais ce calcul avec des rendements des dispositifs qu'on a actuellement, hein, c'est-à-dire je ne rêve pas. Donc avec 2 litres d'eau, vous faites suffisamment d'hydrogène pour alimenter votre maison quand il fait nuit. Et là, vous avez à la fois la collecte de l'énergie solaire, sa transformation en une forme stockable, qui est l'hydrogène, et ensuite l'utilisation de l'hydrogène comme carburant.
Donc tout n'est pas perdu.
Non, sinon ça, je
s'adresse,
pas...
moi, ça s'adresse à des gens qui sont passionnés par l'énergie déjà. Il faut être sensibilisé parce que il faut s'en occuper, c'est un petit peu de travail, quoi. Hein.
Oui, alors.
Ce qui m'a intéressé dans ce que vous faites là, c'est aussi cette photosynthèse artificielle.
Oui, alors, ça, l'idée qu'on fascinant. Pourrait récupérer
les feuilles artificielles,
ce qu'on envoie dans l'atmosphère.
Ouais, voilà, ça c'est mon grand rêve. Je suis pas le seul. Hein. Finalement, le rêve, c'est après avoir passé plus d'un siècle maintenant, à brûler les ressources fossiles pour nous fournir l'énergie qui a permis notre développement, mais avec la contrepartie de produire du CO2. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer ce CO2 et le reconvertir en carburant ? Alors, quand vous pensez à ça, vous pensez immédiatement, comme c'est mon cas, parce que je suis chimiste, mais je fais aussi de la biologie, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde vivant, eh bien, c'est ce que fait exactement les plantes, les organismes photosynthétiques, comme les cyanobactéries, comme les microalgues, dont vous avez peut-être entendu parler. Ces organismes-là ont ce pouvoir fantastique de collecter non seulement l'énergie solaire, mais aussi de fixer le CO2 et de produire toute la biomasse qui nous entoure. Et cette biomasse, c'est quoi ? C'est des molécules riches en énergie, des molécules carbonées, qui sont une forme stockée de l'énergie solaire.
Ce serait génial, en fait.
Alors, voilà, donc c'est ça qu'on fait.
Il y a une chose qui est... c'est le facteur temps. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper les 250 millions d'années qui ont permis à ces végétaux? Comment est-ce qu'on peut gagner du temps là-dessus? C'est ça, c'était...
Non, la question, c'est qu'il y a des très grosses difficultés techniques. Ce qu'il faudrait faire, ça serait travailler sur le CO2 atmosphérique, celui qui est là, autour de nous. Et celui-là, il est tellement dilué que c'est lui qui est le plus abondant.
Oui.
Il est tellement dilué que c'est difficile. Donc, pour le moment, on ne peut imaginer cette stratégie qu'en captant le CO2 sur les sites de grosse production d'émissions de gaz à effet de serre. Les fermenteurs, les centrales thermiques au charbon, les différents sites industriels qui sont des... Bon, là, on peut récolter le CO2. Bon, malheureusement, ça ne sera que 10% du CO2 qu'on émet. Parce qu'après, on ne va pas mettre un collecteur de CO2 derrière chaque pot d'échappement. Enfin, tout ça, enfin, voilà.
Quoique, peut-être un jour.
Oui, peut-être. Toujours est-il que... voilà. Mais ça sera déjà pas mal d'enlever 10% du CO2 à l'atmosphère.
Et bien, voilà une note optimiste sur laquelle on peut terminer cette balade. Jean-Louis Etienne, merci de nous avoir emmenés avec vous dans Paris. Merci, Marc Fontecave, de nous avoir reçus au Collège de France. Je remercie également Titouan Lamazou. Je remercie le BHV, les serres du Muséum d'Histoire Naturelle, la Baleine, la cafétéria du Jardin des Plantes. Je remercie également les Compagnons du Devoir et le Collège de France, dans lequel nous nous trouvons maintenant. Je rappelle que votre livre s'intitule « Oser l'autonomie ». Il est paru aux éditions Rustica. Je vois que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire. Je souhaite à nos auditeurs un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h.
Oui, à la semaine prochaine, Frédéric.